Comment c'est? Je suis maître de conférence à l'université de Rouen en anglais, donc en langue et littérature anglaise. Donc là, je vais vous parler de la fantasy d'un point de vue d'angliciste. Et je suis également membre de l'Institut international Charles Perrault, donc, qui est une association qui se spécialise dans la littérature de jeunesse, la recherche, la promotion, la formation en littérature de jeunesse. Alors, je voulais commencer d'abord en rappelant le phénomène éditorial, en posant la question, est-ce qu'il s'agit d'un phénomène de mode? On ne peut que constater la popularité actuelle, en effet, de cette littérature. Et nous allons nous attacher à essayer de cerner un petit peu mieux dans cette conférence ce qu'est la fantasy au sein de ce qu'on a coutume d'appeler la littérature de l'imaginaire. Mais avant d'entrer dans des tentatives de définition éditoriale ou littéraire, un constat s'impose. Tout d'abord, c'est que la fantasy représente aujourd'hui, en France comme dans le monde entier, une part significative des ventes du secteur éditorial en général, et une proportion considérable de l'édition pour la jeunesse en particulier. Pour aller très vite, hein, mais je ne vais pas tous les citer, j'ai mis là quelques exemples de collections pour la jeunesse qui se sont créées ces dernières années, dans la dernière décennie, hein, qui sont spécialisées de façon générale dans ce qu'on appelle la fantasy. Et puis, il y a bien sûr la Pottermania, hein, le phénomène qu'on a appelé la Pottermania, puisque, bon, il y a quelques années, donc en septembre 2008, plus de 400 millions d'exemplaires de la série Harry Potter avaient été vendus dans le monde. Donc, c'est un phénomène qu'on ne peut plus ignorer, ça fait partie du décor maintenant. Pour l'anecdote, j'avais même oublié dans ma bibliographie au début de mettre Harry Potter parce que c'est une telle évidence que voilà, on n'y pense plus. On a oublié ce qu'était un monde avant Harry Potter. Alors, pour donner un exemple du corollaire en fait de ce succès de l'édition de la fantasy pour la jeunesse, quelques mots sur le passage du livre à l'écran. Puisque, en effet, le succès de la fantasy pour la jeunesse est difficile à quantifier précisément, mais donc un bon indicateur de ce succès, c'est justement le cinéma, avec des films de fantasy qui sont quasiment toujours des adaptations de romans. On ne le sait pas toujours quand on va voir un film, mais c'est le cas. Or, si on prend le box-office mondial des films les plus vus, de façon générale, hein, pas seulement récemment, les 50 films qui ont fait le plus gros chiffre de vente, ben, entre 70 et 85% à peu près de ces films-là relèvent de la fantasy, du fantastique ou de la science-fiction. Hein, je mets tout en bloc. Donc, ça varie selon les modes de calcul. Ça comprend des films pour adultes et des films pour enfants, des films en prise de vue réelle ou des films d'animation. Ça va des Disney, donc les Pinocchio et les Bambi qui relèvent de la fantasy ou des 101 Dalmatiens jusqu'à Harry Potter, en passant par l'Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton, par exemple. Particulièrement aujourd'hui, on a une proportion très significative de films grand public qui sortent sur les écrans et qui sont des adaptations d'œuvres littéraires de fantasy. Alors, vous avez par exemple, bien sûr, le succès du récent du Seigneur des Anneaux, mais le Seigneur des Anneaux, on verra que c'est un petit peu à cheval entre la fantasy pour enfants et pour adultes. Le premier volet de La Croisée des Mondes, je ne sais plus si c'est une image pour ça. Bien sûr, le grand succès d'Harry Potter avec cette année la première partie de l'adaptation du dernier tome qui sort, Harry Potter et les Reliques de la Mort, puisque le dernier tome va être adapté en deux films. Le Monde de Narnia, cette année on a l'Odyssée du Passeur d'Aurore qui est sorti, et Charlie la Chocolaterie, Alice, etc. Bon, je suis obligée de m'arrêter là parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc le fait même qu'il y ait de plus en plus de liens entre littérature et cinéma est parlant. C'est-à-dire que ces nombreuses adaptations sont d'une part l'effet du succès des livres et par ailleurs, elles vont elles-mêmes provoquer une augmentation du succès de ces livres dont elles s'inspirent. Et donc, on a tout un jeu. Bon, là, c'est une image d'Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton, mais il y a eu beaucoup d'autres adaptations. Et donc, ce que je voulais vous montrer là, c'est qu'on a de nombreux allers-retours qui se font aujourd'hui entre livres et films, puisque là, ce que je vous montre, en fait, c'est le roman du film. Hein, donc, aller-retour, livre, adaptation, et puis ensuite un nouveau livre, et même deux nouveaux livres, qui sortent à partir du film qui s'est inspiré du livre de Lewis Carroll. Autre exemple, mais bon, c'est le cas ça, pour toutes les grandes superproductions qui sortent actuellement. Ici, vous avez le guide officiel du film À la croisée des mondes, donc le premier volet, la boussole d'or. Donc, ces adaptations, il faut dire, sont en partie le fait de la transformation du secteur éditorial, c'est-à-dire que les grands éditeurs, aujourd'hui, sont des multinationales qui produisent non plus seulement des livres, mais aussi des produits d'autres supports, jeux vidéo, etc., puisque maintenant, on a, à partir d'un même récit, on a une quantité de produits qui sont générés, et plus seulement des livres. Donc ici, quelques exemples de jeux vidéo à partir de livres de fantasy. Et on va même avoir des produits dérivés, c'est-à-dire que là, on n'est plus dans le récit à proprement parler, avec des jouets, avec des vêtements à l'effigie des héros de fantasy. Donc on a aujourd'hui une marchandisation de la littérature et notamment de la littérature de jeunesse qui est propice au succès de la fantasy. Et ça c'est en partie dû au fait que la fantasy a un très fort potentiel à se reproduire, à être adaptée au cinéma et dans de nombreux médias. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le mode narratif par excellence. Hein. C'est l'histoire qui prime dans la fantasy. Et donc, c'est très facile de raconter cette histoire de façon différente. Une même histoire donc, peut être racontée sur plusieurs supports ou dans plusieurs médias. Alors, en deux mots, quelles sont, parce que ce n'est pas exactement mon sujet aujourd'hui, mais quelles sont les raisons de cet engouement sans précédent pour la fantasy, pour la jeunesse ? En fait, pour parler de la fantasy de façon générale, il y a un engouement qui revient à intervalles réguliers depuis l'explosion de la fantasy qui a eu lieu à la suite du Seigneur des Anneaux de Tolkien, donc milieu du XXe siècle. Donc il y a des moments où la mode baisse un peu, des moments où ça revient. Et bon, là, évidemment, le regain d'intérêt récent, il s'est fait à partir de la fin des années 90 avec le phénomène Harry Potter. Donc, il y a vraiment, je pense, un phénomène de mode indéniable en ce moment. C'est-à-dire qu'on constate même que Harry Potter a relancé certains livres ou lancé tout court certains livres ayant des thèmes proches. Bah, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la romancière de fantasy pour la jeunesse, Diana Wynne Jones. Voilà, son nom est écrit ici, qui est morte il y a quelques semaines. Qui est une très grande auteure de fantasy pour la jeunesse principalement britannique, qui était en fait quasiment pas traduite en France. Elle écrit depuis très très longtemps, hein, depuis au moins les années 70, et qui a été rééditée après Harry Potter, hein, et qui a connu de plus en plus de succès à la fin de sa carrière, alors que ça faisait des années qu'elle écrivait des livres sur les mêmes thèmes et d'excellente qualité, vraiment, et elle écrivait même, ce que les gens ne savent pas souvent, des histoires d'écoles de sorciers, hein, 20 ans avant Harry Potter. Donc, voilà, c'est principalement dans cette série-là qui s'appelle Les Mondes, en français, je crois, Les Mondes de Prestamancy, Prestamancy étant ce magicien que vous voyez ici sur l'image. Une autre raison du succès, je pense, et de l'engouement actuel, c'est qu'il y a une forte dimension symbolique je pense de façon plus générale, au tournant du siècle, il y a besoin de se raccrocher à quelque chose et peut-être de se projeter dans un univers qui va pouvoir permettre d'exprimer ou de comprendre mieux certains problèmes auxquels on est confronté. Donc Pascal s'affranchit des normes, en fait, c'est ça, la fantasy, c'est le départ dans l'imaginaire. Parce qu'elle s'affranchit des normes et des contraintes par l'évasion, elle laisse place à une certaine identification du lecteur. Alors, là c'était quelques titres donc, de Diana Wynne Jones, hein, qui maintenant ont été pas mal traduits. Et voilà donc les mondes de Kristen Moncey. Vous avez la liste de ceux qui ont été traduits ici chez Gallimard. Donc, pour essayer de définir la fantasy, puisque ça pose de gros problèmes de définition, je commencerai par dire que c'est une définition déjà qui varie au passage des frontières, c'est-à-dire que il y a la définition éditoriale et la définition éditoriale française même, qui n'est pas exactement la même que la définition qu'on a en Grande-Bretagne. Si on se souvient, enfin certains d'entre vous êtes trop jeunes, mais il y a un demi-siècle, on n'utilisait pas encore en France ce terme de fantasy. On essayait en fait de trouver des équivalents français, hein, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez récent, cette utilisation du terme anglais en France. Bon, ça date surtout d'il y a à peu près 2 décennies. Il est difficile de trouver une traduction pour le mot, c'est pour ça qu'on utilise le mot anglais. Il n'y a pas d'équivalent exact. Si on parle de fantaisie, ça n'est pas la même chose parce que ça ne désigne pas un corpus de texte. Hein. La fantaisie, ça peut être un mode littéraire, ça n'est pas un ensemble de textes ayant des caractéristiques communes. Alors, il y a eu une tentative d'assimilation, j'ai découvert ça, je ne le savais pas, dans la langue française, c'est-à-dire que le journal officiel de la République française du 23 décembre 2007 a décidé qu'on pourrait utiliser le mot fantaisie, vous voyez, écrit comme ça, A-S-I-E à la fin, comme équivalent du terme anglais fantasy, et donne une définition, genre situé à la croisée du merveilleux et du fantastique, qui prend ses sources dans l'histoire, les mythes, les contes et la science-fiction. Bon, c'est un petit peu fourre-tout, mais bon, ça donne une idée. Alors, ce qui est amusant, c'est de voir que bon, ce mot n'est pas plus utilisé comme ça, c'est-à-dire qu'on utilise toujours le mot avec l'orthographe anglaise. Voilà, donc on a recours à ce mot anglais et en même temps, malgré ce besoin de respecter le sens anglais, on n'entend pas exactement la même chose par fantasy en France et dans les pays anglo-saxons. Et moi, comme j'ai une vision d'angliciste, je vais vous donner de toute façon, comme la fantasy est originaire de Grande-Bretagne, je vais vous donner le sens britannique du mot qui n'est pas exactement l'équivalent du sens français. Alors, l'acception française est en fait beaucoup plus étroite. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup été influencée parce que la fantasy est devenue dans la lignée du Seigneur des Anneaux, hein, de la trilogie de Tolkien. Et nous, en France, notamment dans le domaine éditorial, quand on parle de fantasy, on a tendance à penser voilà, le genre de Tolkien, hein, du Seigneur des Anneaux. Prendre l'étymologie du mot, ça vient du grec fantasia qui veut dire apparition et par extension imagination. Donc au départ, la fantasy c'est l'irruption dans l'univers connu ou familier d'éléments imaginaires, irrationnels, surnaturels ou magiques à des degrés très différents, c'est-à-dire il peut y en avoir très peu comme il peut y en avoir beaucoup et on peut carrément partir dans des mondes complètement différents. Alors, en anglais, la définition est vraiment beaucoup plus large qu'en français. Vous allez voir, on va voir les différentes sous-catégories, mais vous allez voir que ça inclut énormément de choses auxquelles on ne penserait pas forcément. Déjà, est-ce qu'on peut essayer de cerner un petit peu mieux la fantasy en voyant ses ressemblances, ses divergences avec le conte de fées, le fantastique ou la science-fiction ? Alors, fantasy et fantastique, déjà, c'est évidemment la même étymologie. En anglais, c'est en fait la même chose. alors qu'en français, non, parce qu'on a eu des critiques qui ont donné une vision particulière, une interprétation, et des auteurs aussi, avant les critiques, qui ont donné une interprétation particulière de ce mot. C'est-à-dire qu'avec le fantastique, ce qui définit le fantastique, c'est l'hésitation, en fait, alors du personnage dans l'histoire, ou du lecteur ou du spectateur, à croire, son hésitation à croire à cet événement impossible, cet événement surnaturel ou irrationnel qui survient. Alors, qu'en fantasy, dès lors que l'élément surnaturel, alors ça peut être des animaux qui parlent, ça peut être des mondes parallèles, dès lors que cet élément surnaturel survient, il est accepté d'emblée. On ne se pose pas de questions, ou très peu, un petit peu au début, et puis ça passe vite. Et on accepte finalement ce monde magique sans avoir peur, sans se poser de questions, sans être perturbé. C'est ce que Tolkien a défini dans un essai qui s'appelle « Du conte de fées ». Alors, en anglais, « Suspension of disbelief », c'est-à-dire « On arrête de ne plus croire à quelque chose, notamment. Hein. » Donc, quand on entre dans le domaine de la fantasy, on est prêt à croire à tout ce qui est donné d'emblée, sans se poser de questions, sans essayer de chercher une explication logique ou rationnelle. Voilà, donc la fantasy, pour nous, serait plus proche de ce qu'on appelle le merveilleux en français. C'est-à-dire que le fantastique a une dimension perturbante, inquiétante, que n'a pas la fantasy. Alors, c'est en train de changer dans certains développements récents de la fantasy. On a parfois des auteurs qui introduisent des éléments fantastiques, hein, qui font un petit peu peur. Là, je vous donne un exemple qui est facile à comprendre parce qu'on a l'illustration qui va avec. Ça, c'est, je ne vous ai pas mis le titre, là, c'est un livre d'Ian McEwan qui est surtout connu comme romancier pour adultes et qui a écrit un livre pour enfants qui s'appelle Le Rêveur. Je ne l'ai pas marqué ici, The Daydreamer en anglais, Le Rêveur. Et donc, c'est un ouvrage de fantasy sans hésitation possible, mais avec comme ça des petits moments de fantastique, comme avec cette poupée hein, qui, comme chez les romantiques allemands, par exemple, peut faire très très peur, mais on trouve la même chose dans les films d'horreur. Hein. La poupée peut être un élément horrifique, ou les automates, etc. Donc, chez certains auteurs, il y a lui, McEwan, il y a Neil Gaiman aussi, hein, Neil Gaiman avec Coraline, je ne sais pas si vous connaissez, on est à la limite vraiment entre la fantasy et le fantastique, ou Terry Pratchett également. Alors, fantasy, oui, alors là j'ai passé trop tôt, la différence entre fantasy et science-fiction, là c'est plus facile, parce que la science-fiction se déroule dans des univers qui sont scientifiquement ou technologiquement plus avancés que le nôtre, donc il y a une dimension futuriste normalement dans la science-fiction qu'on n'a pas, pas forcément en fantasy. Et ça repose donc, c'est une approche qui repose sur une anticipation, une approche spéculative du futur. Quant au conte et la fantasy, on va voir qu'en fait, les liens sont très étroits. Il y a beaucoup de romans de fantasy qui font penser à des contes, hein, des contes de fées. On verra que c'est parce que la fantasy émane du conte, en fait. Et donc, même si on a surtout des romans, en fait, en fantasy, on a des œuvres qui sont très proches du conte. Il y a certains contes littéraires qui peuvent être considérés comme des œuvres de fantasy. Et donc, c'est significatif que dans beaucoup d'œuvres modernes, hein, contemporaines, récentes, on ait souvent parlé de contes modernes. Hein. Ça revient pour Harry Potter, par exemple. On a le petit garçon qui est orphelin, qui est complètement démuni au début, qui est très malheureux, et puis finalement, il va prendre sa revanche en passant par toutes les étapes obligées du conte, hein, donc situation de manque au début, et puis après réparation avec l'aide d'adjuvants, qui aide donc le personnage, le héros, contre les opposants, avec l'aide d'objets magiques, etc. Donc le roman de fantasy est très proche du conte. Il y a un autre auteur où vraiment on parle souvent de conte moderne, c'est Roald Dahl, et donc c'est pour ça que je vous avais mis là des illustrations de Charlie et la chocolaterie, c'est qu'on a encore une fois des personnages qui, comme dans le conte, incarnent des fonctions passionnant. Là, si on prend Charlie, le héros, vraiment, c'est un personnage un peu plat, hein, très docile. Et les autres enfants qui visitent la chocolaterie incarnent des fonctions, incarnent des défauts, en l'occurrence. C'est pour ça qu'ils vont tous être éliminés les uns après les autres. Donc voilà, c'est de la fantasy, Charlie la chocolaterie. Vous avez là, vous voyez le gourmand, Augustus Gloop. Vous avez la fille qui mange toujours du chewing-gum, Violette, qui se transforme en myrtille dans l'histoire, qui est punie donc. Vous avez Veruca, qui est la petite fille gâtée, qui elle aussi va être punie. Et puis tout en bas, Mike TV, le fan de télé. Qui va se transformer donc en tout petit personnage, il va être transformé par des ondes de télévision. Et donc les enfants sont punis par leur péché mignon, si je puis dire, hein, c'est-à-dire par là où ils ont péché. Ce sont des personnages de conte, hein, sans hésitation. Voilà pour la proximité de la fantasy avec le conte. Alors quel public pour la fantasy puisque on pourrait résumer en disant que c'est un genre qui est au-delà des frontières d'âge. Et il y a cette ambiguïté vraiment depuis les débuts de la littérature de fantasy, c'est-à-dire que l'un des premiers auteurs de fantasy, qui était l'Écossais George MacDonald, qui est très peu connu en France, mais c'est vraiment un grand classique en Grande-Bretagne, a écrit vraiment dans la même période des œuvres de fantasy pour adultes et des œuvres de fantasy pour enfants, et il a écrit aussi des contes et des romans. Donc, il cherchait, il hésitait, et on est vraiment à l'articulation entre contes et romans, et à l'articulation entre enfance et âge adulte. L'âge du public, donc en fantasy, va varier selon les sous-catégories de fantasy. Ça peut aller de la petite enfance, à partir de l'âge où un enfant sait bien lire tout seul, jusqu'aux jeunes adultes, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui la catégorie des jeunes adultes. En fait, la fantasy a souvent tendance, et ça, elle le fait de plus en plus actuellement, à transgresser hein, les limites entre les classes d'âge différentes. Alors, quelles sont ses origines? Pourquoi je parle juste de fantasy britannique en parlant de fantasy pour la jeunesse? Est-ce que c'est un genre spécifiquement britannique? Si on utilise le mot en anglais, c'est qu'il y a des raisons, c'est-à-dire qu'on reconnaît implicitement l'origine anglo-saxonne de cette littérature. En fait, elle remonte à la seconde moitié du 19e siècle, donc la fin de l'ère victorienne en Grande-Bretagne, c'est-à-dire en fait qu'elle coïncide avec le moment où on a l'épanouissement, l'explosion d'une véritable littérature pour la jeunesse en Grande-Bretagne. Elle peut être décrite, je l'ai dit, comme un avatar du conte. C'est-à-dire qu'il y a une mode à cette époque-là, des contes, hein, qui étaient très appréciés de tous les intellectuels et artistes. On a importé beaucoup de contes à cette époque-là. Il y a eu des contes aussi musicaux. Et à partir de là, s'est créé quelque chose de nouveau, hein, à la limite entre le conte et le roman, qui est devenu la fantasy. C'est vraiment à cette période que la fantasy s'est affirmée en tant que genre. Avant, elle pouvait exister sous d'autres formes. Il y avait plutôt des précurseurs avant cette période-là. Donc, on a vraiment une mode. Vous voyez les contes de Grimm qui ont été traduits en anglais en 1823 avec des illustrations de George Cruikshank, un célèbre illustrateur. Vous avez également le danois Andersen qui est traduit en anglais et qui est en fait considéré souvent comme un des premiers auteurs de fantasy pour la jeunesse. Et donc, on a un passage progressif de cet intérêt ambiant pour le conte à de véritables créations nouvelles, c'est-à-dire plus des contes en tant que tels, mais des œuvres un peu hybrides, comme celle-ci, qui est une des premières œuvres de fantasy pour la jeunesse en Grande-Bretagne. Alors, j'ai mis le titre en français parce qu'il a été traduit, mais malheureusement, ces différentes traductions sont, je crois, complètement épuisées. C'est dommage, mais c'est vraiment un grand classique. Hein. Le roi de la rivière dorée ou le roi de la Charles Kingsley, là aussi, lui, il est considéré comme un grand classique, hein, qui a écrit un ouvrage, je ne sais pas trop s'il faut dire un conte ou un roman, c'est entre les deux, The Water Babies, en français, les bébés d'eau, malheureusement, c'est là aussi complètement épuisé. Et le sous-titre, vous voyez, est intéressant, un conte de fées pour un enfant, pour un bébé terrestre, pour un bébé de la terre, par opposition aux petites créatures surnaturelles que sont les bébés d'eau. Donc voilà, on est en train de faire une transition là. George MacDonald se situe aussi en plein dans cette transition, avec des œuvres encore qui sont... Alors, il y en a une qui a été rééditée il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si elle est épuisée ou pas, mais enfin, il faut bien chercher hein, pour trouver en français, alors que c'est un grand auteur. Vous voyez, par exemple, La princesse et le gobelin, hein, qui a été traduit, qui a été réédité il n'y a pas très longtemps. Donc là aussi, ouvrage à la frontière entre le conte et le roman de fantasy. Et puis, bien sûr, on en arrive à Alice au Pays des Merveilles, vous la voyez ici dans la maison du Lapin Blanc, et qui est vraiment l'œuvre qui va... C'est pas la première œuvre de fantasy, mais c'est vraiment celle, par son succès, par son originalité, qui va lancer la fantasy pour la jeunesse. Alors, il y a eu de grands classiques, hein, pas seulement Alice, qui ont forgé, en quelque sorte, la fantasy britannique pour la jeunesse et qui font ce qu'elle est devenue, ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, quelques mots rapides sur ces grands classiques de ce qu'on a appelé l'âge d'or. L'âge d'or, donc, c'est cette période dont je vous parlais, c'est-à-dire à la fin de l'ère victorienne. Hein. Disons, les quatre dernières décennies du 19e et puis l'avant-première guerre mondiale. La période édouardienne également. Donc, on a appelé cette période l'âge d'or de la littérature pour la jeunesse en s'inspirant du titre d'un ouvrage de Kenneth Graham qui a écrit, on va en parler, une œuvre de fantasy très connue pour la jeunesse. Mais là, il s'agit d'essais sur l'enfance. Et l'un de ces essais, vous voyez peut-être, c'est écrit en petit, mais ça a été réédité, donc là, on le trouve, il n'y a pas longtemps. Vous avez Jour de rêve qui est précédé de l'âge d'or. Et donc cet âge d'or, évidemment, c'est l'enfance, mais on a donné ce nom également à cette période exceptionnelle de production littéraire pour la jeunesse. Alors, il y a bien sûr dans cette période Alice, quelques mots sur Alice, parce que c'est quand même à Lewis Carroll que j'ai emprunté le titre de ma conférence, puisque de l'autre côté du miroir, ça rend parfaitement, si vous voulez, les deux livres, hein, puisqu'il y a en fait d'abord Alice au Pays des Merveilles en 1865, et ensuite de l'autre côté du miroir, ou la traversée du miroir selon les traductions, en 1871, qui est la suite. Elles ont, ces deux œuvres, joué un rôle considérable dans l'évolution de la littérature pour la jeunesse, mais pas seulement, hein, dans l'évolution de la littérature en général, et de l'art également. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il y a énormément de références dans de nombreux pays, dans les œuvres artistiques et littéraires, dans le cinéma, à Alice. Et j'ai trouvé qu'en fait, cette idée de traversée du miroir, c'est-à-dire de basculement, hein, de renversement tout d'un coup, correspondait bien à ce qui se passe dans la démarche de la fantasy, c'est-à-dire tout d'un coup, le basculement dans l'ailleurs, que cet ailleurs soit simplement suggéré ou qu'il s'impose complètement, hein, notamment par les univers secondaires. Donc Alice, ce qui est nouveau dans Alice, c'est que la fantasy va être associée au plaisir, c'est-à-dire ce plaisir, il est lié à l'absence de toute vocation pédagogique. Dans ce livre pour la jeunesse, que j'hésite, moi en fait je préfère parler de conte pour Alice, hein. On dit souvent roman, mais là encore on est à la limite. Et donc, la fantasy est associée au plaisir, c'est nouveau en littérature pour la jeunesse, où il y avait toujours cette vocation morale, moralisatrice même, ou didactique. Là, il s'agit de l'histoire a été racontée d'abord à la petite Alice Leydon, donc, qui était la fille du doyen de l'université d'Oxford, ou Lewis Caron, de son vrai nom Charles Lutwidge Dodgson, enseignait les mathématiques. C'était quelqu'un de très guindé, très collémonté. Sa spécialité, c'était la logique. Et cet homme-là, qui était extrêmement sérieux, extrêmement timide, qui a donné cette œuvre complètement originale et d'une fantasy débridée. Donc, voici la petite fille à qui Alice a été racontée au début, ce qui a donné un manuscrit. D'abord, elle lui a demandé de le mettre à l'écrit, et là, vous avez un extrait du manuscrit qui s'appelait, au départ, Alice's Adventures Underground, donc pas au pays de merveille, mais sous la terre. Et puis, il trouvait que ses dessins n'étaient pas assez bons, et donc, il a demandé à John Tenniel de faire les illustrations, qui sont donc les illustrations de l'édition originale d'Alice, par John Tenniel. Donc, Alice correspond à une libération de l'enfant lecteur, c'est-à-dire que l'évasion, là, la fantasy, l'évasion dans le monde secondaire du Pays des Merveilles, se fait d'abord grâce au cadre du rêve, parce que si vous vous souvenez bien, Alice s'endort et c'est rappelé à la fin, c'est pas très clair au début, mais c'est rappelé clairement à la fin, elle se réveille et puis elle tape dans ce qui n'était en fait qu'un paquet de cartes, hein, qui est donc représenté, ces cartes, tous les personnages du Pays des Merveilles. Donc on a ce cadre onirique du rêve, on a aussi l'omniprésence du jeu, et ce jeu est donc associé au plaisir de l'enfant, qui pour une fois n'est pas sermonné, etc., dans le livre qui lui est destiné. Ben, le jeu, il y a d'abord, bien sûr, le jeu de cartes, hein, donc le paquet de cartes qui donne l'origine des personnages, des créatures bizarres du Pays des Merveilles. De l'autre côté du miroir, c'est le jeu d'échecs, hein, qui sert de base à la structure du livre. Tout est basé donc sur le jeu d'échecs qui sera repris par Rowling dans Harry Potter. C'est une référence à Alice. Donc, ces œuvres deviennent rapidement des classiques et trouvent bien sûr de nombreux illustrateurs talentueux pour faire de nouvelles éditions. Là, je vous donne juste l'exemple d'Arthur Rackham parce qu'il est assez connu, mais il y a eu vraiment énormément de nouvelles illustrations dès que l'œuvre a été libre de droit. Voilà, donc on a, si vous voulez, une compréhension profonde de l'enfant dans Alice. C'est-à-dire qu'il y a l'attachement, même s'il y a le jeu, il y a l'attachement à réfléchir à la spécificité du jeune lecteur, aux préoccupations de l'enfance. Hein, quand on a Alice qui change de taille tout le temps, qui se métamorphose, quoi de plus vrai finalement pour décrire l'enfance qui est finalement un état de mutation, de changement constant, hein, c'est-à-dire quand on est enfant, on est en éternel devenir, ça a été traité différemment par Philip Pullman, mais c'est cette idée de passage, de changement permanent auquel l'enfant doit s'ajuster et c'est pas forcément évident, ça peut perturber, ça peut angoisser, ça peut poser des questions sur l'identité profonde. Donc, il y a cette dimension aussi, hein, le fait de prendre l'enfant, non seulement ne plus le sermonner, mais prendre l'enfant au sérieux et comprendre ses préoccupations. Et donc, le succès d'Alice, si vous voulez, a contribué à faire de la fantasy un mode majeur en littérature de jeunesse. Alors, on a d'autres grands classiques de l'âge d'or, je vais passer très vite, qui sont principalement les œuvres de Kipling, de Barry, de Kenneth Graham et de Nesbitt. Ce qui les rassemble, pour essayer de synthétiser un petit peu, c'est d'avoir orienté la fantasy naissante vers l'univers de l'enfant. C'est-à-dire qu'au départ, la fantasy, ce n'était pas spécifiquement pour les adultes ou pour les enfants. Là, il se trouve que ça a coïncidé avec une période où vraiment, alors on parle parfois de culte de l'enfance, bon, c'est parfois critiqué, mais où il y avait vraiment un intérêt très fort pour l'enfance, c'est l'univers de l'enfance. Donc, il y a eu, si vous voulez, une orientation de ces œuvres de fantasy sur cet univers. Hein. Donc, culte de l'enfance chez Victorien et aussi les Édouardiens. la même manière que Lewis Carroll décrit un univers enfantin par excellence dans Le Pays des Merveilles, Kipling, lui, qui est un auteur anglo-indien, s'est attaché à décrire l'enfance dans le livre de la jungle. Donc là, il a écrit beaucoup d'œuvres hein, pour adultes et pour enfants, mais j'ai choisi celle-ci. Donc, en fait, il y a deux livres de la jungle. Donc le premier de 1894, le deuxième de 1895. Et en fait, ce sont des récits courts qui ne parlent pas tous de Mowgli, mais très souvent par la suite, notamment en traduction, on n'a conservé que le cycle de Mowgli. Donc si vous ne connaissez que la version Disney, vous avez une idée totalement fausse de ce qu'est l'œuvre originale. Maintenant, si on regarde bien, on peut trouver en français ces livres comme ils étaient au départ. Donc pourquoi c'est un univers enfantin par excellence, la jungle de Mowgli? C'est-à-dire que Mowgli, il est tiraillé en permanence entre l'univers de la jungle, des animaux qui l'ont élevé dans la jungle, la jungle qui a un monde qui a ses propres règles, hein, la loi de la jungle, qui d'ailleurs, pour l'anecdote, a donné naissance à une bonne partie du folklore scout, hein, puisqu'il était ami de Baden-Powell, et vous savez, les louveteaux, tout ça, tous les petits rites sont issus du livre, des livres de la jungle de Kipling. Donc, cet enfant, Mowgli, il est tiraillé entre l'endroit où il a été élevé, la jungle, parmi les animaux, et le monde des humains, auquel il sait bien qu'il va falloir qu'il retourne un jour. Ben, ça, c'est exactement la situation de l'enfant, qui, par moments, a envie de rester un bébé, un enfant, un petit, et puis qui, par ailleurs, a envie de grandir. Donc, encore une fois, et de façon très différente, à travers cette fable animalière, on a une œuvre de fantasy sur la jeunesse. Alors, la différence de Peter Pan, dont je parlais maintenant, par rapport à Mowgli, c'est que lui, il ne se résout pas à quitter l'enfance, alors que Mowgli va se résigner, finalement, à quitter la jungle et à aller chez les humains, finalement. Peter Pan, lui, c'est l'enfant qui ne voulait pas grandir, hein, c'est dans le sous-titre de la pièce. Et donc, cet univers alternatif vers lequel s'en va Peter Pan, Neverland en anglais, le pays de jamais en français, hein, c'est un pays donc, où on reste toujours enfant, on a donc les garçons perdus qui sont là restent enfants tout le temps, ils ne font que jouer, c'est la seule activité, hein, donc l'activité enfantine par excellence. Et on a donc ce pays imaginaire qui synthétise l'enfance en quelque sorte. Alors Peter Pan, on le connaît encore une fois, surtout par la version édulcorée qu'en a donnée Disney, mais dans sa version d'origine, il est très différent. Il y a eu en fait plusieurs textes, hein. Il y a eu une nouvelle qui était à l'intérieur d'un roman, qui a été republiée, et il y a eu une pièce de théâtre qui au début n'était que jouée, qui n'était pas publiée, qui a été publiée beaucoup plus tard. C'est vraiment la pièce de théâtre en 1904 qui a rendu Peter Pan célèbre. Mais dans l'œuvre d'origine, c'est un personnage arrogant, cruel, narcissique. Ce Peter Pan, c'est un produit à la fois de la société anglaise de l'époque et de l'histoire personnelle de l'auteur, c'est-à-dire que J.M. Barrie a une enfance difficile, il a perdu son frère aîné et sa mère est tombée dans une profonde dépression. Et donc, il a décidé déjà d'incarner cet enfant qui était mort et de s'arrêter de grandir à l'âge où son frère était mort, c'est-à-dire à 13 ans. Il a gardé toute sa vie une apparence juvénile, il était tout petit, hein, 1m50, et donc il ressemblait à un enfant. Il a incarné en fait Peter Pan dans sa vie, l'enfant qui ne voulait pas grandir. Et voilà, donc là encore, c'est un blocage, une réflexion sur l'état de transition qu'est l'enfance, avec ici, dans ce cas-là, un blocage, un refus de devenir adulte. Et voilà, donc il a même sa statue qui est peinte dans les jardins de Kensington à Londres. Alors, The Wind in the Willows, j'imagine que vous ne le connaissez peut-être pas tous, Le Vent dans les Saules, si. Il est très très connu, c'est un grand classique, et vous le connaissez peut-être, alors il a été publié en 1908, par, alors déjà par la série de BD de Michel Plessis, ce sont des adaptations en bande dessinée qui marchent très bien. Mais vraiment, c'est très fidèle à l'original. Et puis, il a fait une suite qui s'appelle Le vent dans les sables. Donc là où il invente complètement, mais avec les mêmes personnages. Donc en France, moi, je me suis rendu compte qu'on le connaît beaucoup par le biais de Michel Plessis, alors que c'est vraiment un immense classique en Grande-Bretagne. Il deviendra peut-être un petit peu plus connu puisqu'il y a une adaptation qui doit sortir en 2012 au cinéma, qui d'après l'affiche n'a pas l'air d'être du tout dans le même esprit, mais bon, on verra bien. Alors là, il s'agit encore une fois d'une fable animalière. Graham était un monsieur très sérieux, il était banquier, il a été même secrétaire général de la Banque d'Angleterre. Quand son enfant naît, il se met à lui raconter des histoires, d'abord oralement et puis après par lettres, et puis finalement à partir des lettres, il publie en 1908 Le vent dans les saules, The Wind in the Willows, qui sont les aventures de principalement quatre personnages, crapaud, rat, taupe et blaireau, qui sont des animaux anthropomorphisés, là vous voyez crapaud, c'est-à-dire qui sont habillés comme des humains, qui parlent, qui pensent, etc., qui sont donc pas du tout réalistes, hein, et qui, même s'ils sont clairement des adultes, là on le voit pour crapaud dans l'histoire, habitent un monde complètement bucolique, où encore on ne fait que... Il n'y a que des loisirs finalement, il n'y a pas besoin de travailler, en tout cas pas pour les personnages principaux. On fait surtout du bateau sur la rivière, qui est en fait la Tamise, même si elle n'est pas nommée. Et donc, ce monde du vent dans les saules, c'est une Arcadie perdue qui, alors, qui peut-être montre une nostalgie de Graham pour cette Angleterre qui est en train de changer considérablement, mais qui est aussi la nostalgie finalement de l'enfance, hein, de cet état privilégié que représente l'enfance. Alors, pour aller très vite, je vais donner juste quelques grands repères au XXe siècle. On a T.H. Alors là, je fais un bond dans le temps, mais je vais reparler de tous ces auteurs ensuite. On a T.H. White et Tolkien, bien sûr. Ce qu'on peut dire, c'est que le XXe siècle a été vraiment, y compris du point de vue littéraire, très marqué par ces deux guerres. Et donc, la fantasy a permis un retour à la magie, un rejet du monde réel, a permis d'exprimer le rejet du monde réel, a permis de s'évader un petit peu et d'oublier ce malaise lié aux guerres mondiales. On a la publication de Bilbo le Hobbit en 1937. Et puis, juste à la même période, une œuvre qui est moins connue en France, L'épée dans le roc ou L'épée dans la pierre, là aussi c'est pas facile de le trouver, pourtant c'est un immense classique en Grande-Bretagne, de T.H. White, vous le connaissez par la version Disney, qui s'appelle Merlin l'Enchanteur en français, le film. Donc ça, c'est inspiré du premier tome de la série de T.H. White, The Sword in the Stone, la série s'appelant The Once and Future Kings. C'est donc une réécriture des légendes arthuriennes. Et donc, on a le refuge dans le passé d'une Angleterre légendaire, ou pour Tolkien, pour Bilbo le Hobbit, le refuge dans cette terre du milieu qu'il invente, hein, qui est une sorte d'univers pseudo-médiéval. Qui permet d'oublier un petit peu le malaise de la période. Alors, bien sûr, Le Seigneur des Anneaux, c'est la suite, en quelque sorte. Mais c'est une suite qui est extrêmement différente, que je ne considère pas, moi, comme des livres pour enfants. Alors que Bilbo est un livre pour la jeunesse. Bilbo, il l'a écrit pour ses enfants. Hein. Ses enfants étaient petits. Et je ne sais pas s'il a envoyé le sous-titre, non, on ne le voit pas, c'est There and Back Again, c'est-à-dire, je crois que c'était traduit, histoire d'un aller et d'un retour. Bilbo, il revient à son point de départ, ce qui est souvent le cas dans les œuvres de fantasy pour la jeunesse, c'est-à-dire que, comme dans Le vent dans les saules, on a la même chose, on retrouve sa maison, home sweet home, hein, et il y a le réconfort. pour Bilbo, mais c'est tout. Alors qu'il y a une portée complètement différente, et là, le héros du Seigneur des Anneaux, lui, va être transformé. Il écrit beaucoup plus tard, vous voyez 1954 contre 1937 pour Bilbo le Hobbit, ça ne s'adresse plus à des enfants. Voilà, et donc l'ami et collègue de Tolkien, C.S. Lewis, à la même période, commence ses chroniques de Narnia, dont il y aura en fait 7 volumes. Si vous voulez, on peut dire que Tolkien va déterminer l'évolution ultérieure de la fantasy pour adultes, alors que Lewis, lui, va faire un petit peu la même chose, mais pour enfants, et il va avoir une influence sur l'évolution de la fantasy pour la jeunesse par la suite. À cette époque-là, donc milieu 20e, il y a une espèce de séparation en deux branches de la fantasy, hein, pour les adultes et pour les enfants dans la lignée de C.S. Lewis. Alors, c'est vrai que les chroniques de Narnia, puisqu'aujourd'hui on dit les mondes de Narnia, mais ça c'est le choix des éditeurs, hein, au début c'était les chroniques de Narnia, c'est 7 romans écrits entre 1950 et 1956, se situent un petit peu en marge de l'évolution du roman pour la jeunesse, c'est-à-dire que la fantasy y est clairement instrumentalisée pour délivrer un enseignement religieux, puisque Lewis, qui était d'abord athée, se convertit au catholicisme et donc il se sert de ses romans. Il appartient au même groupe d'intellectuels chrétiens que Tolkien, un groupe qui se réunit régulièrement. Et donc, ces différents épisodes sont en fait des allégories chrétiennes qui renvoient à différents épisodes de la Bible autour de la figure du lion, Aslan, qui est le Christ, en fait. Donc, la figure christique du lion. Donc, il y a beaucoup de choses sur la foi, hein, la petite Lucy qui croit toujours. Peter le Grand, qui est Pierre, sur lequel donc, va se fonder l'Église, etc. Ce sont des allégories, en fait, chrétiennes. Donc, mais en même temps, on peut les lire à tout à fait un autre niveau. On peut ne pas du tout voir ces allégories et voir simplement des romans d'aventure, hein, ce qu'ont tendance un petit peu à faire les adaptations filmiques des romans. Et du coup, ces récits d'aventure ont fortement influencé les créations ultérieures en fantasy pour la jeunesse. Alors, dans la deuxième partie du XXe siècle, du coup, on a parlé d'un second âge d'or, c'est-à-dire qu'on va avoir des auteurs, comme par exemple Lucy Boston, qui a écrit une série sur le manoir de Greenow. Là, je pense qu'il s'est peut-être épuisé, mais c'est important aussi. Et puis, avec Mary Norton, la série des Borrowers, donc en anglais, en fait, ça veut dire les emprunteurs, ça a été traduit Chapardeur, hein, donc le film qui vient de sortir, c'est une adaptation, bien sûr, de ces petits personnages qui sont, en fait, c'est un petit classique, hein, elle est connue dans sa période, Mary Norton. Et en fait, le motif de la miniaturisation, hein, le petit peuple qu'on trouve déjà chez Tolkien, c'est un motif qui revient tout le temps, bah, déjà dans les contes, hein, avec Tom Pouce, etc., mais qui marche très bien jusqu'à maintenant et qu'on trouve souvent dans les romans pour enfants. Voici donc une version plus moderne de ces personnages miniaturisés avec la trilogie pour enfants de Terry Pratchett, camionneur, terrassier et aéronaute en français, donc l'histoire des gnomes. Alors, la dernière étape, donc voilà, le grand livre des gnomes, là, ils ont été réunis en un seul. La dernière étape dans le XXe siècle, je dirais que c'est l'étape actuelle, c'est-à-dire les deux grands phénomènes, hein, ce que je considère comme les deux grands phénomènes récents de la fantasy pour la jeunesse, à savoir ces deux ensembles romanesques, ces deux cycles. La trilogie, d'une part, de Philip Pullman, À la croisée des mondes en français, His Dark Materials en anglais, écrite à partir de 1995, et puis, donc, les sept Harry Potter, donc, affiche une ambition nouvelle. Vous le voyez, là, vous avez toute la série. C'est énorme en nombre de pages. Hein. His Dark Materials, c'est pareil, La Croisée des Mondes. Là, les trois ont été réunis. Pullman dit qu'au début, il voulait faire une seule histoire. Ça aurait fait à peu près 1200 pages. Bon, finalement, il était obligé de couper en trois parties. Mais on n'avait jamais fait ça avant, en fantasy pour la jeunesse. Enfin, pas à ce point-là, en tout cas. Donc, il y a aussi dans les thèmes énormément d'ambition dans ces deux ensembles. C'est-à-dire qu'on a des thèmes philosophiques, religieux, qui sont abordés très sérieusement. On n'a pas la légèreté qu'on pouvait avoir dans certaines œuvres de fantasy auparavant. Alors, Pullman, il mène une réflexion assez complexe sur la puberté, qui est abordée par le biais de la poussière biblique. Là aussi, il y a tout l'arrière-plan religieux qui est important. Alors que Rowling, elle aussi, a cette approche sérieuse. Elle travaille vraiment sur la construction du personnage avec 7 volumes qui vont correspondre aux 7 années, aux 7 niveaux scolaires hein, du personnage principal, qui vont permettre vraiment de voir très progressivement son évolution, sa maturation, son passage à l'âge adulte, finalement. On peut dire qu'avec ces deux phénomènes d'édition, la fantasy pour la jeunesse s'est rapprochée du monde des grands et s'est rapprochée du monde des adultes, ce qui fait que maintenant, on commence à parler de crossover literature, hein, celle qui est vraiment à l'intersection de l'enfance et de l'âge adulte. On a pour ces deux œuvres des éditions d'ailleurs spéciales pour les enfants et d'autres avec des couvertures différentes pour les adultes. Et pour la première fois, pas avec Rowling, mais avec Philip Pullman, on a un prix, un grand prix littéraire, donc le prix Whitbread, pas spécialement pour les enfants, qui a été accordé au 3e tome de la trilogie, ce qui n'avait jamais été vu, hein, puisqu'il y a une branche, un prix spécial qui existe dans la Whitbread pour les œuvres pour la jeunesse. Et là, c'est le prix général qui a été accordé à Pullman. Alors, quelles sont un petit peu les caractéristiques, les subdivisions, les motifs, les mécanismes du genre. Déjà, on peut, pour résumer, dire qu'il y a, pour aller très vite, il y a deux grandes branches dans la fantasy, ce qu'on appelle la low fantasy, la fantasy basse, et la high fantasy. Alors, ce qu'on appelle low fantasy, et qu'on a appelé parfois domestic fantasy, c'est ce que vous voyez en bas ici, c'est en fait... alors, elle est plutôt destinée aux enfants plus jeunes, hein, celle-ci. Aux enfants assez jeunes, pas aux jeunes adultes du tout. La magie est introduite ponctuellement dans un univers familier, rassurant, et souvent dans l'univers domestique et quotidien. C'est-à-dire qu'on a des romans qui se déroulent presque uniquement en intérieur, hein, dans une maison. Bah, l'exemple par excellence, c'est Mary Poppins, avec la gouvernante douée de pouvoirs magiques qui incarne le lien entre réel et surnaturel, entre merveilleux et quotidien, qui sait parler aux animaux, qui sait se déplacer au gré des changements de vent. Et l'enchantement de la fantasy a été très bien rendu, ce qui a aussi contribué à la rendre célèbre par l'adaptation de 1964 avec Julie Andrews. La fantasy dans le film, elle va être rendue par la musique, hein, puisqu'en fait c'est une comédie musicale. Elle va être rendue aussi, vous le voyez là, par le passage dans le dessin animé. Donc on a un mélange de prise de vue réelle et de dessin animé, ce qui n'était pas courant hein, à l'époque. Et le monde de la fantasy, c'est quand on rentre dans le dessin animé. Hein, ça, c'est le monde parallèle. Mais c'est assez ponctuel finalement dans Mary Poppins. On a également des histoires de jouets, où les jouets prennent vie. Et là, par exemple, c'est l'Indien du placard. Donc là, vous avez le roman qui est repris avec la couverture de l'adaptation cinématographique. Mais c'était un livre qui date de 1980, où le petit Indien, la figurine, prend vie. Il y a aussi beaucoup d'histoires de poupées. Alors, ça, oui, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là, ça, oui. Alors, l'autre partie, la high fantasy, qui est plus proche de ce qu'on entend, nous, quand on parle de fantasy en français, c'est celle qui va impliquer, alors qui va intéresser plus un public d'adolescents ou de jeunes adultes, qui est souvent caractérisée par un univers pré-industriel, pseudo-médiéval. Il y a souvent un bestiaire caractéristique qui est composé de monstres, de créatures plus ou moins hybrides, inspirées du folklore, de la mythologie, etc. On a ça dans Narnia. On a, en fait, dans cette high fantasy, on a des subdivisions. On parle de heroic fantasy, où le héros a énormément d'importance. On a l'epic fantasy, qui est très proche en réalité, mais on a moins un héros monolithique, si vous voulez. Et vous avez l'expression sword and sorcery, parce qu'en anglais, on joue sur la proximité des sons. Hein. Sword and sorcery, c'est l'épée et la sorcellerie. Donc, il y a beaucoup de combats également. Ça a donné toute une branche pour adultes, Conan le barbare, etc., ce genre de fantasy-là. Mais on trouve la même chose dans la croisée des mondes. On va avoir de la high fantasy, on a des combats. On trouve la même chose dans les chroniques de Narnia. C'est-à-dire que dans Narnia, il n'y a pas seulement des combats, hein, comme dans Harry Potter, il y a même des guerres. D'ailleurs, ça peut un peu perturber. On a des enfants qui font la guerre avec de vraies armes, bon, un peu anciennes, mais on a des enfants quand même qui font la guerre. Et voilà mon illustration. Donc, on a là de la high fantasy ou epic fantasy dans une œuvre pour la jeunesse. Alors, quelques sous-genres de la littérature de fantasy pour la jeunesse. Vous avez l'histoire animalière, ce qu'on appelle en anglais animal story, qui est vraiment là encore une tradition anglaise, où on va avoir des petits animaux plus ou moins anthropomorphisés, qui ressemblent pas mal aux hommes en général, ils ont leur langage, parfois des vêtements. Et souvent on aime bien les petits animaux, hein, pour donner quelques exemples, il y a énormément de souris. J'ai choisi la souris comme modèle dans la fantasy pour la jeunesse en anglais. Ça va de Rippy Chip, hein, dans Prince Caspian de C.S. Lewis, jusqu'au rat fabuleux, vous voyez là, de Terry Pratchett dans le fabuleux Maurice et ses rongeurs savants en français. En passant par Bernard et Bianca, qui, on l'oublie souvent, est une adaptation d'un roman britannique pour la jeunesse, The Rescuers. En fait, le roman animalier est l'héritier direct, hein, du vent dans les saules de Kenneth Graham dont on a parlé. Là, on a un grand classique, c'est pour ça que je le cite, qui s'appelle Les Lapins de Watership Down, ou Les Garennes de Watership Down en français. Watership Down en anglais. Et là, on a des animaux qui vivent des aventures proches des aventures d'Ulysse dans l'Odyssée. On a une épopée, un voyage véritablement. C'est très sérieux, très grave ce qui leur arrive. Et leur garenne est menacée. En fait, ils vont chercher la garenne idéale. Hein. Donc, il y a une articulation très forte avec le clivage utopie-dystopie. Ils cherchent la garenne idéal, mais en cherchant, ils tombent sur des garennes qui sont des dystopies, c'est-à-dire des sociétés qu'on ne veut absolument pas, dans lesquelles on ne veut pas vivre. Et donc, des tyrannies, etc. Voilà, donc ça, c'est pas très connu en France, mais il faut voir que ça a été vraiment un roman culte en Grande-Bretagne et aux États-Unis notamment, et il y a eu un dessin animé, un long métrage également fait à partir de ça. Là, on a l'impression actuellement que ce sous-genre de la fantasy animalière s'épuise un petit peu, d'autant qu'on avait un auteur, un excellent auteur récent qui est mort il y a quelques mois, qui s'appelait Dick Kingsmith, que vous connaissez peut-être par le film Babe, si vous ne connaissez pas les romans, mais il a écrit énormément de romans animaliers, de fantasy, avec principalement les animaux de la ferme ou des chiens qui appartiennent à des humains et qui parlent, qui ont des aventures, etc. Donc c'est un univers très coloré de la ferme qui a inspiré aussi d'autres séries comme, donc ça c'est encore des Kingsmith. Alors celui-là il s'appelle en français Les Longs Museaux. Alors, c'est des poules qui se défendent toutes seules contre des renards. Et là on a vraiment toute cette mode de séries animalières, alors les Rouges Murailles, etc. Mais c'est un petit peu en train de s'épuiser en ce moment. sorcier, déjà. Donc, en fait, l'intérêt, si vous voulez, de, avant, vraiment, le roman scolaire, le roman d'école, c'était vraiment réaliste. Hein, c'était de la littérature réaliste. Avec Harry Potter, mais pas seulement, avec déjà Diana Wynne Jones et d'autres séries moins connues, on a finalement le type de littérature réaliste par excellence qui s'hybride avec de la fantasy. Hein, donc, il y a plus clivage réalisme-fantasy qu'on avait avant. Pourquoi ? Ben, c'est intéressant parce que l'école, c'est un microcosme. Donc, ça permet, si vous voulez, d'intensifier l'action. Hein, tout se passe dans un espace circonscrit, de jouer sur les limites qu'on n'a pas le droit de dépasser, donc de jouer sur les tabous, sur l'interdit. Évidemment, dans Harry Potter, on va aux endroits où on n'a pas le droit d'aller. On sort de l'école, on va dans la forêt qui est à l'extérieur, etc., dans le village voisin. Donc, il y a ce jeu sur la notion de transgression que permet le roman scolaire, parce que bien sûr, ça ne se passe pas dans des écoles modernes, ça se passe dans des pensions qui n'existent plus tellement que ça en Grande-Bretagne aujourd'hui, hein, mais c'est intéressant que Rowling ait choisi d'utiliser des public schools comme on avait avant, où les élèves sont pensionnaires, donc toute la vie se passe à l'école. Vous avez également le voyage dans le temps, mais je vais passer vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais vraiment un des premiers exemples, c'est au début du XXe siècle, Edith Nesbit, avec le secret de l'amulette. Et il y a eu, en fait, à la même période, la machine à remonter le temps de Wells. Finalement, ces voyages dans le temps qu'on trouve en fantasy, pour la jeunesse, ils ont été beaucoup inspirés par les progrès scientifiques de l'époque. Et notamment, la fantasy aujourd'hui est très liée à tous les progrès de la physique, notamment la physique quantique, hein, qui suppose l'existence possible de plusieurs mondes parallèles. Et ces univers, alors ça c'est une notion qu'on appelle le multivers, hein, donc l'ensemble d'univers possibles qui cohabitent. En fantasy, ça a évidemment une dimension ludique, hein, parce qu'on s'amuse de passer d'un monde à un autre, comme ça, de changer. Mais il y a aussi une dimension métaphorique intéressante dans l'exploration de l'identité. Je passe très vite sur, donc ça c'est Nesbit encore, Tom et le jardin de minuit, je voulais le citer parce que c'est un voyage dans le temps, là aussi c'est un petit classique moderne, hein, si on peut dire, où il y a ce personnage, ce petit garçon qui, toutes les nuits, quand l'horloge sonne 13 coups, va dans le jardin et il trouve un jardin complètement différent de la cour bétonnée qu'il connaît aujourd'hui et où il va rencontrer la petite Hattie. Et il se rend compte qu'en fait, ce qu'il fait toutes les nuits, ce sont des incursions dans le passé. Et je ne vous dirai pas la fin parce que vous pouvez encore le lire, hein, je pense que ça doit se trouver. Mais voilà, on a un voyage dans le temps qui permet, en plus avec le jardin qui là aussi est entouré de murs qu'on a bien envie de dépasser, mais en même temps qui protège, on a encore une fois une réflexion sur l'enfance, hein, ce que c'est que cette enfance. Très vite, je le cite juste, Le fantôme de Thomas Kemp, si vous pouvez le trouver, c'est vraiment très bien, d'une grande romancière, qui est également romancière pour adultes, hein, Penelope Lively, où on a un personnage qui, par erreur, fait revenir un personnage maléfique du passé. Et c'est très drôle. Alors, je vais passer très vite sur l'Uchronie parce qu'on en a assez parlé tout à l'heure, donc bon, j'ai pas le temps, mais je voulais juste dire qu'il y avait aussi des Uchronies en fantasy pour la jeunesse, notamment dans la série des Crestomancy, les différents mondes qu'on trouve, puisqu'il y a plusieurs mondes séparés, hein, et les personnages ont même des versions d'eux-mêmes un peu différentes dans tous les mondes, ben, ça part de là, hein, ça part d'un même point de divergence, souvent historique, où les univers ont pris des cours, où l'histoire a pris des cours différents dans différents univers. Alors là, je passe parce que je n'ai pas le temps, c'était simplement la réflexion sur les nouveaux sous-genres qui sont en train de se créer en fantasy. La bête-lette, hein, ce qu'on appelle la bête-lette à partir du verbe bite, mordre, hein, ces histoires de vampires. Bon, c'est surtout américain, c'est plus un phénomène américain. Mais on peut rattacher ça à la fantasy, mais là, vous voyez qu'on est vraiment à la frontière entre fantasy et fantastique. Hein, donc, c'est intéressant de voir qu'actuellement, en cherchant à renouveler les catégories, on a finalement une hybridation qui se fait, hein, et qui va provoquer un renouveau et qui fait que les catégories qu'on connaissait avant ne sont plus pertinentes finalement pour décrire la production. Hein, et là, on n'a plus une telle différence entre fantasy et fantastique. Pour montrer aussi que le qui n'en est plus si loin. Cette série, donc, qui s'appelle Notes and Crosses, en fait, c'est le nom du jeu du morpion en anglais, Notes and Crosses. On fait des ronds et des croix. Alors, en français, c'est traduit entre chien et loup. Hein, vous voyez, il y en a plusieurs. Et là, c'est intéressant parce que finalement, c'est quelque chose qui nous parle de la ségrégation raciale, mais qui en parle par le biais de la fantasy. Alors que là, on avait un thème qui était vraiment le thème des romans hyper réalistes hein, qui se sont développés en littérature pour la jeunesse dans les années 70. Donc, on a une société qui est proche un peu de l'Afrique du Sud sous l'apartheid, en fait, dans ces romans-là, dans cette série. Il y a pas mal de romances aussi, d'histoires d'amour. Et on a, en fait, un monde où ce sont les Blancs qui sont discriminés et non pas les Noirs. Donc, renversement, c'est bien de la fantasy et pourtant, ça nous parle de sujets très actuels comme le racisme et la discrimination. Alors, voilà. Là, c'est un exemple. Pour moi, c'est vraiment un des grands auteurs récents hein, en Grande-Bretagne, David Ormond, notamment pour Skellig, où on a un roman qui paraît presque réaliste. Alors moi, je qualifierais ça de réalisme magique, hein, dont on parle pour des auteurs comme Salman Rushdie, par exemple, pour des œuvres pour adultes. C'est-à-dire qu'on a des toutes petites touches qui nous permettent de dire que ce n'est pas vraiment du réalisme, mais vraiment, elles sont très légères. Et on découvre que le clochard qui vit dans le garage du garçon et que le garçon va voir tous les jours, finalement, il a quelque chose qui pousse dans le dos et finalement, ça a bien l'air d'être les ailes d'un ange. Mais ça, c'est plus suggéré que dit. Alors, il y a eu une adaptation où là, cinématographique, où là, on tombe carrément dans la fantasy, on a les personnages qui volent, parce que le vol sur des créatures magiques, etc., sur des dragons, c'est vraiment un motif qui revient tout le temps. Mais dans le livre, c'est vraiment juste suggéré, on n'est pas sûr. Hein, on a l'impression que c'est un ange, mais on n'est pas vraiment sûr. Donc là aussi, une nouvelle catégorie qui, à mon sens, est en train d'apparaître. Voici l'adaptation. Alors, quelques grands procédés, mais je vais essayer d'aller vite pour finir, de la fantasy pour la jeunesse. Déjà, on peut dire que c'est un genre qui est très codifié, c'est-à-dire qu'il est tellement codifié, il y a tellement des règles, des éléments qui reviennent tout le temps, qu'à la limite, c'est facile pour un mauvais auteur de tomber dans le stéréotype assez vite. Hein. C'est un genre qui est fortement codifié. Déjà, on a la notion de monde, d'univers. Et ça, c'est intéressant de voir chez les éditeurs, le mot monde est repris exprès très souvent, alors qu'il n'était pas forcément dans le titre d'origine. Donc, ce monde est cartographié hein, à la manière de Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux. Là, vous avez la carte de Narnia qui a été faite par Pauline Baynes. On a énormément de cartes en fantasy. Voilà, il y a l'idée qu'il y a une prédisposition des enfants à passer dans un autre monde. C'est ce que Tolkien a appelé, en fait, dans son essai sur le conte de fées. Il a parlé, lui, de monde secondaire hein, pour la première fois. Et l'idée que le monde de la fantasy, finalement, s'il reste cohérent, est vrai. Tout est vrai si on respecte les règles de ce monde, hein, une fois qu'on y est. Donc, si vous voulez, il y a le jeu sur la norme qui fait que ce qui semblait anormal au départ ne l'est plus si on adopte le point de vue du monde secondaire. Par exemple, quand on est dans Harry Potter, ce sont les moldus qui ne sont pas normaux. Hein, les sorciers, eux, ils ont le point de vue principal. Quand on est dans Narnia, finalement, c'est tout à fait normal d'être entouré de créatures hybrides, inspirées de la mythologie, etc. Hein, donc, il y a ce jeu sur la norme qui permet aussi une réflexion sur le point de vue et sur ce que c'est que la différence, finalement. Vous avez le motif également des dons surnaturels. Alors, les pouvoirs qui permettent à quelqu'un d'être un élu. Là, j'ai choisi juste le cas de Mathilda, de Roald Dahl, qui, par ses pouvoirs de télékinésie, c'est-à-dire elle arrive à faire bouger les objets par la pensée, va se venger de l'horrible directrice Mademoiselle Le Bourdin. Et puis, vous avez des objets magiques, toute une panoplie d'accessoires. Donc là encore, c'est intéressant pour les produits dérivés, les déguisements, mentaux, ces capes que tisse l'héroïne, qui ont un pouvoir sur la réalité. Là, vous avez les accessoires magiques de Harry Potter, la baguette, le balai, le chapeau. Vous avez les accessoires magiques de la croisée des mondes. Je passe rapidement parce que c'est connu. Parfois, c'est une partie du corps qui peut être magique, parfois. Et là, vous avez un autre motif que j'illustre juste par deux images. C'est la métamorphose, qui est aussi un motif récurrent. Alors là, c'est « J'étais un rat » de Philippe Pullman, où le petit garçon... on découvre que le rat de l'histoire était finalement un petit garçon. Et là encore, je ne vais pas tout dire, mais c'est une réécriture d'un conte bien connu. Je vous laisse trouver. Là, encore une métamorphose avec le rêveur d'Ian McEwan, où un petit garçon, dans un des épisodes, rentre dans la peau de son chat. Il voit donc le monde d'un autre œil. Et puis, dernier motif que je voulais commenter, c'est tous les lieux de passage, tous les seuils, toutes les portes qui reviennent tout le temps parce qu'elles signalent, elles matérialisent le passage dans l'ailleurs. C'est par exemple, bien sûr, l'armoire magique de Narnia qui permet d'arriver à Narnia et également, par exemple, le placard dans lequel on met la petite figurine pour qu'elle prenne vie. Vous avez là la porte de Coraline de Neil Gaiman dans l'adaptation cinématographique. Donc la porte, ici d'ailleurs, ça, à mon avis, il y a une référence à la porte qui est murée aussi dans Le Neveu du Magicien, dans les Chroniques de Narnia. C'est pareil, il y a une porte comme ça dans la maison où on entre dans l'ailleurs. Mais Coraline, en fait, c'est un jeu sur aussi Coraline Lewis Carroll, donc le motif de l'inversion est très important. On voit ce qui est de l'autre côté, pas du miroir mais du mur. Et donc c'est une réécriture, on peut considérer ça comme une réécriture d'Alice. Voilà, alors pour conclure, parce que je pense que j'ai assez parlé, conclure très vite. Que laisse présager en fait le regain actuel d'intérêt pour la fantasy? Qu'a changé le phénomène Harry Potter? Est-ce que la fantasy est devenue internationale? Je pense qu'il y a un caractère universalisant à la fantasy, qui favorise son exportation. Et ça commode bien donc de la tendance actuelle à la mondialisation, finalement. C'est-à-dire qu'elle permet de dépasser le blocage que constituent certaines particularités nationales. Bah, par exemple, avant, le roman qui se passait dans des écoles s'exportait pas toujours très bien, parce qu'il faut connaître le système scolaire pour comprendre et pour apprécier. Alors qu'avec Harry Potter, finalement, la public school anglaise, aucun problème, parce qu'il y a la fantasy qui aide. Donc, il y a un côté universalisant dans la fantasy. Ce qui fait que ça s'exporte, on le constate actuellement. Donc, depuis quelques années, elle commence à gagner d'autres pays occidentaux, autres que les pays anglo-saxons, et notamment en France, où on a eu toute une série d'imitations ou de variations plus ou moins réussies sur Harry Potter, etc. Depuis Peggy Sue de Bruce Solo, de Tara Duncan, de Sophie Audouin, Mamie Cognon, à Eric Lhomme et Pierre Bottero, Oxa Pollock, etc. Vous connaissez. Mais c'est amusant parce que là, je regardais un peu Oxa Pollock. Il faut quand même qu'elle aille à Londres, vous voyez. Donc, il y a toujours cette référence, même si on produit maintenant la fantasy en France, il y a quand même cette référence aux origines anglo-saxonnes. Donc, je pense qu'il y aura, ça va être les facteurs déterminants dans l'évolution de la fantasy. Déjà, la mondialisation actuelle, l'indispensable renouvellement éditorial, parce que les éditeurs poussent les auteurs à chercher autre chose, à faire des variations là aussi, autre chose que ce qui existe déjà. En même temps, on a énormément de rééditions, donc ça, c'est plutôt une bonne chose, d'œuvres qui étaient épuisées. Et puis, un facteur qui me paraît déterminant, c'est le brouillage actuel des catégories d'âge, avec l'importance nouvelle qui est donnée à ce qu'on appelle les jeunes adultes, sur l'expression anglaise, les young adults, avec cette crossover literature, qui est vraiment à la limite entre enfance et âge adulte, et où on a finalement des catégories d'âge qui se multiplient à l'infini, ce qui fait que ça brouille tout. On a des préadolescents, qu'en anglais on va appeler les twins maintenant, qui sont avant les teens, avant les ados. On a plus des adolescents, entre les adolescents et les adultes, on a des jeunes adultes, et ça c'est vrai que dans la vie aussi, on a des adultes qui mettent plus de temps à quitter la maison, et à l'inverse, on a des pré-ados qui sont très précoces. Donc, on a un brouillage actuel des catégories d'âge qui va se ressentir, je pense, dans l'évolution actuelle de la fin de cycle pour la jeunesse. Bon, ça, il faudra le vérifier dans ce qui va être produit. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Est-ce que vous avez peut-être des questions, remarques? Oui. Ah d'accord, ils ont eu peur. Mais c'est vrai qu'elle fait peur, hein, même sans l'image. Oui. Là, c'est vrai qu'on est presque dans le film d'horreur, mais on retrouve beaucoup la même chose déjà au 19e avec les contes d'Hoffmann, et puis dans les films d'horreur actuels. Hein. Oui. En fait inclassable parce que c'est vrai que il se réfère aux métamorphoses d'Ovide. Hein, au début, il y a une citation des métamorphoses d'Ovide. En fait, tout tourne autour de la métamorphose, que ce soit la métamorphose de l'enfant qui devient adulte, aux métamorphoses qu'on voit, différentes métamorphoses qui sont illustrées. Mais vous avez dit, c'est intéressant, c'est une série nouvelle. Oui, mais en même temps, on peut lire ça comme un roman, on ne sait pas exactement ce que c'est. Hein. Donc, même du point de vue du genre, c'est un livre qui est complètement hybride. Hein. Et aussi du point de vue des catégories d'âge, ce qui fait, je crois qu'il n'a pas si bien marché que ça, parce que les gens sont habitués à ce qu'ils publient plutôt pour adultes, et ne savaient pas très bien à qui ça s'adresse.